Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our Insights Hub to help you navigate the year ahead. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness.
Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Brivois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr, l'after en direct tous les soirs de l'année. L'after sera même en direct pendant la période de Noël, notez-le, entre Noël et Nouvel An, l'after sera là tous les soirs. Et jusqu'à minuit donc ce soir dans l'after, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football ne pense pas encore. Daniel Riolo est là, Daniel bonsoir.
Bonsoir les amis.
Kevin Diaz est là ce soir avec nous, salut Kevin.
Bonsoir à tous.
Lionel Charbonnier nous rejoint dans une petite heure. Et puis les drôles de dames seront là comme promis. Car l'événement ce soir dans l'after, c'est la fin de la phase de poule des Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Europa League. On va analyser tout ça ensemble, pays par pays, avec vous au 32-16. On vous attend pour débattre dès maintenant. Mais il n'y aura pas que ça au programme. À 22h30, vous saurez également tout du nouveau projet de Ligue Européenne fermée. Va-t-il se faire, pas se faire? Quelles seraient les conséquences? On rentrera dans les détails. À 23h, les infos du jour suite à l'altercation de mardi entre Badgone et joueurs lyonnais. On élargira le débat. Parce qu'on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, les supporters à Lyon prennent un pouvoir à peu près... prennent un certain pouvoir. Voilà, c'est clair. Comme on l'a vu dans d'autres pays d'ailleurs, on fera des comparaisons. Ce sera tout à l'heure à 23h, supporters lyonnais, on vous attend là aussi. 23h20, toutes les infos Ligue 1, puisque ça reprend dès demain, la Ligue 1 bien sûr, et puis le quiz à 23h40, juste après la superbe nouvelle chronique de Max du Standard, qui nous donnera comme tous les jeudis les tendances de la semaine. Évidemment, Max sera avec nous. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets, le hashtag RMC Live sur Twitter, si vous êtes sur Twitter. Direct Studio, bien sûr, sur les applis gratuites RMC et RMC Sport. Vous téléchargez les applis, vous avez tous les résultats, tous les scores. Vous pouvez écouter la radio et nous envoyer des messages, donc n'hésitez pas à le faire, c'est magique. Et puis l'Europa League, alors ce soir, after le 3h, parce que vous l'avez bien compris, bon, les matchs des clubs français n'ont plus aucun enjeu, hein, même si ça reste des matchs européens. Rennes a battu la Lazio 2-0. Le match s'est terminé il y a quelques minutes. On y reviendra quelques instants, les gars. Pour quelques instants, court.
C'est fait, là. L'instant court est passé.
Voilà.
L'instant court est passé.
Et puis, il y a un match qui vient de démarrer en Allemagne entre Wolfsburg et Saint-Etienne. Timothée Mémon est sur place. Salut, Timothée.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Effectivement, c'est parti il y a 3 minutes entre Wolfsburg et l'AS Saint-Etienne, 0-0 pour le moment entre ces deux formations, des Stéphanois qui jouent en gris. Mais ce n'est pas la seule nouveauté du côté de l'AS Saint-Etienne. On s'y attendait, il y a une composition un petit peu bis, ou en tout cas mixte comme on dit, de part et d'autre d'ailleurs, parce que les Allemands ne jouent que la première place du groupe entre guillemets, c'est le seul enjeu de cette rencontre, Saint-Etienne étant déjà éliminé. La nouveauté, c'est la présence en défense centrale, dans une défense à 4, de Yann Mvila. Claude Puel a décidé de le faire reculer. Alors il se sert évidemment de ce match sans enjeu comme d'un test pour voir si Yann Mvila, comme beaucoup de numéros 6 au fil de leur carrière,
ça ne va rien, parce que après tu peux vraiment t'en servir, parce que ça peut être fort en enseignement, un match qui ne sert à rien.
Bah, il sert à rien, encore une fois, Wolfsburg de son côté joue pour remporter cette rencontre, pour avoir la première place de son groupe.
Qu'est-ce que t'as fait de mal alors pour être puni et suivre ce match qui sert à rien?
Mais Daniel, suivre l'AS Saint-Etienne, c'est toujours un honneur. Toujours.
J'oubliais, pardon. C'est vrai.
Et face à cette équipe de Wolfsburg avec d'anciens Stéphanois, l'ambiance est sympathique, l'accueil a été exceptionnel. Il y a pas mal de leçons à prendre.
Un déplacement aussi moisi, c'est au moins de revenir avec une bagnole à Wolfsburg. Tu te fais pote avec un cadre du club, tu reviens en Volkswagen.
Ouais, je vais déjà essayer de revenir en avion. Avec les grèves, c'est pas gagné.
C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça, mon vieux.
T'as pas tort.
T'es sur place là. C'est le moment là.
Je vais faire du lobbying à la mi-temps.
50% sur le dernier modèle et tu rentres avec.
Oui, t'as pas tort.
Ça sert à quelque chose ce match, hein, quand même, tu vois. Je veux bien l'honneur, tout ça, machin. Enfin, c'est un match en bois. Hein.
C'est un match en bois. Bon, tu vois, j'essayais d'attirer ton attention en disant M. Villa en défense centrale. Apparemment, ça t'intéresse
non, là,
pas.
Non, franchement, non. Non, tu ne te casses pas, mon vieux. On a compris.
Non, c'est vrai que tu le faisais remarquer. Tu le faisais remarquer, Daniel, plusieurs fois. M. Villa ne court plus ou plus beaucoup cette saison. Alors pourquoi pas l'imaginer dans un poste plus bas avec moins de courses comme la défense centrale. Il a une capacité de relance intéressante. Et puis, on croit savoir aussi du côté de la Saint-Etienne que Claude Puel va se séparer d'un certain nombre de joueurs au mercato hivernal. Et que certains défenseurs centraux, ça pourrait être lui, mais si ça n'est pas lui, certains défenseurs centraux pourraient être visés. On sait aussi que William Saliba, bah, il est déjà parti, même s'il est en prêt, il va falloir préparer l'avenir après Saliba. Bref, M. Villa en défense centrale, c'était la nouveauté de cette composition d'équipe.
Ils vont te consulter du pour côté... savoir qui mettre dehors, parce que faut quand même le dire, t'es un pont, hein, Saint-Etienne quand même.
Oh, tu me flattes.
À Saint-Etienne, t'es consulté.
Ben non, absolument pas. Je suis pas consulté. Il manquerait plus que ça.
Si t'es pas consulté, donne juste ton avis sur les trois mecs qu'il faut mettre dehors et tu verras que c'est après il t'écoute. Il t'écoute. T'inquiète pas. Vas-y.
Je pense que dans la valise durant le mercato, l'idée effectivement dont tu parlais de mettre M. Villa, pourquoi pas dans une destination exotique, ce qui permettrait de récupérer un tout petit peu d'argent, ce serait pas forcément une mauvaise chose. Alassane Diouce, évidemment, n'a pas de temps de jeu, même s'il est titulaire aujourd'hui, il fera partie du package. Ouais. Léo Lacroix, Loïs Diony, voilà.
Bon, Léo Lacroix, il est déjà. C'est
fait. Ah, Loïs Diony, tu l'as glissé en scred à la fin, là. Hein,
oui, mais enfin, je veux dire, je suis pas. Alors là, pour le coup, je suis pas le seul Stéphanois à avoir cet avis. Et que ce soit en dehors ou à l'intérieur du club. Paf.
Allez, 0-0, ça vient de démarrer, bien sûr, tu nous tiens au courant dès que l'Espagne
évolue. Le king du Forez.
Et puis, il y a plein de matchs en jeu quand même, hein, qui ne concernent pas les clubs français, bien sûr. Ce soir, et Arnaud Valadon les suit dans cette soirée d'Europa League. Salut Arnaud.
Salut Gilbert, salut à tous. Et on commence par l'ouverture du score pour la Roma sur penalty Perotti. Là, c'est un groupe en jeu, le groupe J, puisqu'on se tient en un point entre le Borussia Mönchengladbach, la Roma et Istanbul Başakşehir. Et la Roma, pour l'instant, face aux Autrichiens du Wolfsberger, font une bonne opération. Et sécure la qualification pour l'instant. On est évidemment qu'au début de ces rencontres, hein, depuis 10 minutes. Et l'autre groupe qui est intéressant, tout le monde peut encore se qualifier, les 4 clubs, le groupe G, Glasgow Rangers, FC Porto, et je pense que Kevin aura un œil sur ce match face à Feyenoord, les Young Boys de Berne et donc Feyenoord. Si Porto s'impose ou fait nul en fonction du résultat de Berne, ça peut passer également donc dans ce groupe G. Puis également le groupe H avec le duel Ludogorets contre les Hongrois de Ferencváros.
Ça peut être bien les jeudis soirs, hein. Il peut y avoir des groupes comme ça, il se passe des trucs.
C'est pas avec nous.
C'était pas mal du tout.
Intéressant, il paraît que ils ont flippé un peu leur mère grand, Arsenal.
Alors que Kevin, t'as commenté le match Arsenal Standard. Ils sont faits pas Arsenal quand même.
Bah ouais, ils étaient menés 2-0. Le Standard qui est. Franchement, il y a un super public là-bas, vraiment. On ne voit pas beaucoup, mais quel stade.
Bien sûr, le Standard, mais les rouges.
Les rouges, ouais. C'était vraiment très beau à voir. Et puis, il y a quelques joueurs de qualité, bien sûr, comme souvent dans les clubs belges. Et Arsenal avec les Baby Gunners qui. Après, il y a beaucoup plus de talent, donc quand en fin de match ça accélère, ils font rentrer Martinelli et Aubameyang notamment, forcément ça va mieux. Il marque deux buts rapidement et c'est dommage parce que vu que dans l'autre match, Guimarães, j'aime beaucoup.
Ouais.
Ah vraiment, c'est pas mal du tout, ça va très très vite avec le ballon.
Je l'ai vu qu'une ou deux fois.
C'est bien. Franchement, Martinelli,
j'ai une bonne impression, mais ouais, tu confirmes.
Même Saka, l'ailier gauche, c'est pas mal du tout. Il y a de la qualité de toute façon dans le centre de formation d'Arsenal, on le sait, mais.
Quand j'avais un prof espagnol au lycée, il s'appelait Martinelli.
Ouais.
Il est très bien.
Là, c'est un Brésilien.
Pas très espagnol comme nom.
Bah ouais, mais. Excellent prof d'espagnol.
Non, c'est pas espagnol du tout, Martinelli.
Bah écoute, t'es pas obligé d'avoir un nom espagnol pour être prof d'espagnol.
Non, mais là, c'est carrément pas.
Moi, j'ai un nom espagnol et
j'ai un nom italien. Voilà. Ça va pas du tout.
Bah très bien, mais enfin, lui, t'es prof d'espagnol.
Moi, je disais dommage pour le standard. Salut. Parce que de l'autre côté, Guimarães, l'autre club portugais qui s'est imposé à la surprise générale sur la pelouse de Francfort, et du coup, si le Standard avait gagné, ils auraient été qualifiés.
Tiens, je vous donne la liste des clubs qualifiés. Alors évidemment, vous rajoutez les troisièmes de Ligue des Champions, hein, reversés. Sont qualifiés Séville, l'Apoel Nicosie, Bâle, le Sporting Portugal, Linz, entraîné par Valérien Ismaël, Celtic, Glasgow, Espanyol, Barcelone, La Gantoise, Wolfsburg, Braga, Wolverhampton, United, l'AZ Alkmaar, mon petit Kevin, ça te fait au moins hollandais, Cluj, Malmo, Copenhague, Retafe, Arsenal et Francfort. Voilà, à ce stade, avant les matchs de ce soir.
Le plateau, il y avait la place pour une ou deux équipes françaises. Non,
il y aurait pu, effectivement.
Malheureusement, tu as parlé des équipes hollandaises en Europa League, mais c'est pas un bon souvenir, ça.
Et sinon, Kevin Van de Diaz, comment t'as vécu
Van der Diaz.
C'est ce que je viens de dire. Il vient de me dire qu'il va y avoir au moins un
Hollandais. Daniel, t'inquiète pas, j'ai prévu une petite page Kevin Diaz spéciale, mais d'abord l'Angleterre. Oui, parce qu'on fait les petits bulletins de notes ce soir. On va d'abord prendre les mecs qui ont fait à sans faute, qui ont la meilleure note. 4 sur 4. Eh oui,
4 sur 4. De toute façon, lui, depuis qu'il est avec nous, tout passe.
4 sur 4, c'est qui?
Sa vie a basculé.
Les oligarques.
C'est Julien Laurence.
Sa vie a basculé, tout va bien. Le seul truc, le petit inconvénient dans toute cette histoire, c'est l'addition qu'il va devoir lâcher lundi.
Mais sinon, salut Julien.
Ça, tout va bien, quoi.
Salut Gilbert, salut Daniel.
Julien Laurence à Londres. Alors, oui, 4 sur 4, Liverpool, Tottenham, City, Chelsea, tous qualifiés donc pour la suite de la Ligue des Champions. Alors, comme promis, on va se faire un petit bilan ensemble. On va faire ça un peu club par club. Tu veux démarrer par quoi?
Par Liverpool, par le champion en titre. Surtout qu'on a une petite info, on a une petite info transfert en plus pour Liverpool qui est tombée là ces dernières heures, puisqu'ils ont recruté Takumi Minamino, l'attaquant du RB Salzbourg, le japonais de 24 ans. Donc on a beaucoup parlé de Erling Haaland, bien sûr, le prodige norvégien de 19 ans, mais Minamino a aussi fait très forte impression en attaque avec justement Haaland. Ils vont le prendre dès cet hiver. Il avait une clause de sortie en fait, d'achat à 9 millions d'euros que peu de clubs étaient au courant, notamment Manchester United et Liverpool, de par notamment leur très bon contact avec le groupe Red Bull, puisque n'oublions pas quand même que Sadio Mané et Naby Keita notamment sont passés par là, surtout Keita, et les très bonnes relations entre Liverpool et le groupe Red Bull a fait que Liverpool a eu très très rapidement l'avantage sur ce dossier Minamino.
Ouais, c'est un bon coup quand même.
Ah, c'est un très très bon coup. Au prix que c'est un très bon coup. Ah ouais. C'est un excellent joueur qui court beaucoup.
Oh pardon.
Ah, il est japonais déjà.
Ah oui, c'est vrai.
Mais alors, tu peux avoir un cousin d'un autre continent. On sait jamais.
Effectivement. On sait jamais, t'as raison Daniel. Mais non, c'est vraiment un très bon recrutement et Klopp est vraiment très heureux de récupérer Minamino, qui va rentrer dans la rotation des attaquants puisque Shaqiri a pas mal été blessé. Je pense que les meilleures années de Shaqiri sont derrière lui aussi. Et avec Origi plus les trois devant, bien sûr, ça peut faire énormément de bien, je pense, à Liverpool.
C'est la tradition en fait à Liverpool d'avoir des phases de poules compliquées en fait, hein.
Tout à fait, c'est ce qu'on expliquait lundi soir d'ailleurs, hein, en parlant du match de mardi à Salzbourg justement, puisque à chaque année depuis l'arrivée de Klopp.
Et c'est les phases de poule où on dit non, mais Liverpool ils s'en foutent un peu parce que c'est le championnat la priorité. Et puis en fait, à l'arrivée, ils sont tout le temps là, ils s'en foutent pas du tout et ils sont bons quand il faut être bon.
D'autant qu'en fait, les choses sont bien faites en Angleterre, c'est-à-dire que Liverpool cette année, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas été champions. Donc tu nous disais lundi que la priorité ça restait le championnat, alors qu'à City, Guardiola, il voit bien le classement du championnat et il se dit je veux absolument la Ligue des Champions.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est exactement ça. D'ailleurs, il y a 15 jours, il y avait une cérémonie organisée par l'association des journalistes sportifs ici en Angleterre où et Klopp et Guardiola étaient invités. Tous les deux ont fait un petit discours un petit peu sympa sur la scène. Et quand c'était au tour de Guardiola de parler, Guardiola a dit « Jürgen, d'ailleurs, la saison dernière, tu as gagné le titre que finalement tu voulais pas trop, mais que moi je voulais beaucoup, la Ligue des Champions. Nous, on a gagné le titre qu'on voulait plus trop finalement, le champion d'Angleterre, mais que toi tu voulais beaucoup. Pourquoi cette année on n'échangerait pas tous les deux? Comme ça, toi tu remportes le championnat, t'es content. Moi, je remporte la Ligue des Champions. Tout le monde est content et ça arrange tout le monde. Et c'est vraiment, même s'il le disait un petit peu sur le ton de la rigolade, et d'ailleurs tout le monde en a tous bien rigolé, c'était effectivement vraiment l'idée. Guardiola et Manchester City rêvent du graal absolu de cette première Ligue des Champions que le club n'a jamais remporté, que Guardiola lui-même n'a plus remporté depuis 2011. Et pour Klopp, tu l'as dit, hein, c'est le titre de Liverpool, le titre de champion qui échappe à Liverpool depuis 30 ans maintenant.
Un mot de Chelsea. On en a assez peu parlé finalement de Chelsea dans cette phase de poule. Alors évidemment, c'est le foot anglais en ce moment, c'est City, Liverpool principalement.
Parce que Chelsea effectivement est passé un peu au second plan parce que on sait que c'est une équipe qui a eu des. Parce qu'avant, ils tapaient fort sur le marché des transferts, donc on en parlait. Et alors avec ce qu'ils ont eu comme soucis au niveau du fair play financier, ils étaient devenus un petit peu discrets et ça a permis à toute une nouvelle génération de joueurs d'arriver. Et c'est presque devenu une équipe sympathique maintenant, alors que c'était pas sa qualité première. On ne disait pas de Chelsea que c'était sympathique. Le côté les jeunes, Lampard et tout ça, ça a rafraîchi l'image de l'équipe, non Julien?
Tout à fait, c'est vrai, tu as raison. On a aussi beaucoup eu les années Mourinho sur les deux passages du Portugais qui, comme tu l'as dit, ont pas forcément fait énormément pour l'image du club en dehors des supporters de Chelsea et du club, etc. Et c'est vrai que l'arrivée de Lampard a amené un vrai vent de fraîcheur avec les jeunes joueurs du centre de formation, les Tammy Abraham et les Tomori, les Mason Mount, les Rich James, et etc. Et c'est vrai que ça a apporté c'est pas simplement une nouvelle ère parce que l'arrivée de Lampard, forcément, ça indiquait le départ d'un nouveau chapitre. Il y a aussi d'autres anciens joueurs du club, comme Ashley Cole, par exemple, et Joe Cole, qui tous les deux, maintenant, un qui entraîne les moins de 18 ans et l'autre qui s'occupe un petit peu du centre de formation, et Peter Cech aussi, qui est revenu au club en tant que directeur sportif. Donc, c'était une nouvelle ère avec Lampard, mais aussi parce que t'as d'autres anciens joueurs qui sont arrivés au club à des postes importants. Et puis, bien sûr, l'émergence de ces jeunes du centre de formation qui a depuis très longtemps été très performant chez les jeunes, mais dont les jeunes ont enfin leur chance en équipe première.
Et puis, Julien, surtout, là, t'as parlé, bien sûr, de Lampard, t'as parlé de l'encadrement, mais il y a quand même un truc qui, moi, me frappe et qui est surtout, comme dit Daniel, à la base, je pense, pour beaucoup de fans de foot qui sont ni londoniens, ni même anglais, donc qui n'ont pas le clubisme forcément des Anglais. Et je vais en venir quand même au principal, c'est-à-dire le terrain quand même, le rectangle vert. Parce qu'au niveau du jeu proposé, franchement, c'est exceptionnel. Franchement, ce qu'ils font avec des jeunes joueurs, avec un nouvel entraîneur, avec des joueurs qui ont éclos en championship, c'est-à-dire en deuxième division anglaise, avec des joueurs comme Kovacic. Pour moi, c'est la renaissance de Kovacic. Il est exceptionnel. Avec le ballon, sans le ballon, on retrouve un joueur qu'on n'a jamais vu, je pense, à ce niveau-là, avec le maillot du Real, notamment. Vraiment, dans le jeu, ce que fait Frank Lampard et ce que font les Blues, c'est surtout très, très attrayant et très, très surprenant.
C'est vrai, t'as raison. Même si ces dernières semaines, c'était un petit peu plus compliqué, hein. Avant la victoire de Lille, c'était une victoire lors des 5 dernières rencontres pour Chelsea. Parce que je pense qu'à un moment, ils ont aussi accusé le coup un petit peu physiquement. Parce que Abraham et Mount, et ce genre de joueurs-là, c'est tout nouveau pour eux, tout ce qui se passe. Tomori, par exemple, est blessé en ce moment. Même Kurt Zouma a été un petit peu moins bien ces dernières semaines. Donc, qui est pas aussi dans les buts. Mais ça fait aussi partie, je pense, de l'apprentissage de la méthode Lampard. Et même pour Lampard lui-même, hein, de l'apprentissage de la Première Ligue, de ce que c'est le football de très haut niveau. N'oublions pas que Lampard, c'est une saison en championship avec Derby County la saison dernière. Et c'est tout comme entraîneur. Donc, c'est vrai que pour lui aussi, tout ça, c'est un petit peu nouveau, ils découvrent, etc., etc. Mais ce qui va leur faire énormément de bien à ce niveau-là aussi, c'est le fait de pouvoir recruter maintenant au mois de janvier. Olivier Giroud va partir, c'est une certitude. Il va donc forcément être remplacé en pointe.
Certitude.
Sauf s'il le bloque, mais lui a demandé à partir. Je vois pas pourquoi le club.
Où est-ce qu'il pourrait aller, Giroud?
Alors l'Inter Milan est sûrement le club le plus huppé qui aimerait le recruter.
À l'Inter, il va jouer où? Avec Lautaro et Lukaku, jamais de la vie il joue. Lui, il veut jouer.
Mais Lautaro et Lukaku, ils peuvent pas jouer 50 matchs dans la saison non plus, Daniel.
Ah, je veux bien.
Donc il y a un moment où il va avoir une rotation.
S'il va pour jouer contre la Spal, ça c'est pas.
Ce sera mieux que de jouer 10 minutes par-ci par-là avec Chelsea. Il n'oublie pas que son temps de jeu cette saison est famélique avec Chelsea. Après, il ira que si Conte lui donne des certitudes sur effectivement le temps de jeu. T'as raison. Il ira pas si, pour faire banquette, ça s'arrêtera rien. Il ira dans un club où il aura l'assurance, entre guillemets, ou les garanties de jouer assez régulièrement.
Il joue l'Europa League. Ouais. Il va jouer l'Europa League avec l'Inter.
Julien, on sait très bien que dans ce genre de club, il n'y a aucune assurance de jouer. Tu vas jouer, ouais, tu vas jouer 2-3 matchs. Après, il faudra être bon. Il faudra retrouver le rythme, ce qui n'est pas facile.
Il joue pas titulaire, c'est sûr. Donc, il va jouer.
Non, mais bien sûr. Mais après Conte, il n'ira pas le chercher. Pour ne pas le faire jouer non plus, ce serait ridicule de la part de Conte. Si Conte cherche un autre attaquant pour rentrer dans la rotation, faire reposer un peu Lukaku et Lautaro de temps en temps, il n'ira pas chercher un mec qui mettra sur le banc 90% du temps entre janvier.
J'irai quand même dans un club.
Non mais je t'ai pas dit qu'il allait y aller. Je t'ai dit que aujourd'hui l'Inter, c'est parmi les clubs qui se sont manifestés, c'est le club le plus huppé. Après, tu as d'autres clubs en Angleterre comme Crystal Palace par exemple et autres comme Everton aussi qui sont intéressés, seraient intéressés, et ce sera peut-être mieux pour lui effectivement au niveau du temps de jeu. Mais je vois pas Chelsea le bloquer. Il s'est toujours comporté comme un professionnel. Il a toujours plutôt fait du bon boulot quand ils ont fait appel à lui. Ils vont pas le bloquer. Donc lui sera remplacé par peut-être un Wilfried Zaha. C'est un profil bien sûr très différent, mais il sera remplacé, je pense. Je pense qu'ils iront chercher un latéral gauche aussi parce que Emerson et Marcos Alonso. Lampard est pas trop convaincu, donc mais si tu veux le fait qu'il puisse recruter,
si tu veux pas leur dire.
Oui, il peut faire, mais après Kurzawa, aller chercher Kurzawa, ça peut être effectivement. S'il pouvait aussi aller chercher Paredes et puis les autres Parisiens qui sont plus trop dans sa tête.
Non mais Giroud en France là.
J'ai essayé de le placer.
Moi je pense qu'à l'OM par exemple.
À l'OM, moi, je pense qu'un club comme l'OM ou Benedetto, certes, a marqué quelques buts, mais je pense qu'il pourrait aussi avoir un autre attaquant dans la rotation, encore une fois, avec un profil différent.
Qui est vachement qui a très bien démarré.
Et à Nice?
Bien sûr.
À Nice, ouais.
Il y a Dolberg aussi.
À Nice, c'est pas mal, ouais.
Dolberg, c'est pas. Mais de toute façon, lui, il sait très bien qu'il peut pas non plus arriver quelque part à 33 ans en ayant si peu joué la première partie de saison et être tout de suite titulaire et marquer 45 buts lors des 6 prochains mois de la saison. Mais lui, il veut simplement aller dans un club où il se sentira bien, il jouera régulièrement, sans dire forcément 100% du temps, mais régulièrement.
À Wolverhampton ou à Stoke.
À Rennes, ça pourrait être bien. Parce que Mbaignan, c'est jamais une assurance. Il peut faire 2 bons matchs, 5 mauvais. Il serait pas mal là-bas. Je viens d'avoir ça comme idée.
Ça peut être une option.
Bon, bref,
peut-être,
voilà.
Mais lui est ouvert à tout en tout cas.
Comment ça a été vu parce qu'on revient à la Ligue des Champions. Ils étaient quand même dans Chelsea était dans un groupe parmi les plus compliqués ou les plus indécis avec Valence et l'Ajax. Finalement, qu'ils sortent de ce groupe-là, c'est vu comme une belle performance, quelque chose de normal.
C'est vu comme une belle performance, surtout après la défaite lors de la première journée à domicile contre Valence, où tout le monde s'est dit, même si c'était un petit peu contre le cours du jeu, même si Barclay avait manqué ce penalty à la fin pour au moins prendre un point, tout le monde s'est dit, oh, tu commences par une défaite à domicile, c'est pas très bon dans un groupe comme tu l'as dit, assez relevé quand même, en tout cas assez homogène, mais quand même relevé. Et c'est vrai qu'ils ont, moi en tout cas, ils m'ont convaincu, ils ont convaincu beaucoup de gens ici en Angleterre parce que c'était pas gagné d'avance pour une équipe si jeune, notamment sans N'Golo Kanté pour une grande partie aussi de cette phase de poule, d'avoir ce genre de résultat, d'aller gagner à l'Ajax par exemple qui avait plus perdu en match européen à domicile depuis pas mal de temps aussi.
C'est le match clé,
ou en tout cas depuis le Real Madrid, non, ça c'est le match clé, t'as raison. Ouais. Tout à fait, c'est vraiment le match clé.
Faut qu'on enchaîne.
Et pour finir Tottenham. Ouais. Oui, faut qu'on enchaîne. Pour finir Tottenham, bien sûr, hein, José Mourinho a dit hier qu'ils étaient l'équipe que personne ne voudrait rencontrer lors du tirage lundi. Encore une fois, hein, une bonne phrase à la José Mourinho.
Il y a match avec l'Atlético aussi. Non,
mais bien sûr, mais c'est José qui voulait rappeler à tout le monde qu'il était là, qu'il était bien présent, que peu importe qui jouera contre Tottenham, mais qu'il allait faire en sorte que ce soit un match compliqué. Voilà, je pense qu'ils recruteront peut-être un joueur, peut-être deux, s'ils ont les moyens au mercato de janvier, ce qui pourrait leur faire du bien encore une fois. Mais sinon, Mourinho va essayer de relancer certains joueurs comme il l'a fait avec Dele Alli, comme il l'a fait avec Son, qui joue à un bien meilleur niveau tous les deux que sous Pochettino. Et puis Mourinho va dire que c'est sa compétition, c'est une compétition dans laquelle il a toujours plutôt bien réussi, même très bien réussi par moment et sur certaines saisons, et que Tottenham sera une équipe chiante à jouer, ce sera compliqué d'aller là-bas, que Mourinho aura un plan contre peu importe l'adversaire, et c'est vrai que sur le papier, se farcir une équipe de Mourinho en huitième de finale de la Ligue des Champions avec un match aller à l'extérieur, un match retour à domicile, c'est pas forcément ce que certains clubs voudront.
C'est clair. Bon bah écoute Julien, merci beaucoup. Tirage lundi hein, vous serez tous à Paris d'ailleurs, les drôles de l'âme, lundi pour vivre ce tirage.
Il y a deux équipes qui peuvent être adversaires
toutes tes équipes peuvent être adversaires des clubs français. Je pensais à Chelsea, Tottenham pour le PSG, City ça peut tomber sur Lyon.
Tout à fait.
Et Liverpool
et Liverpool aussi d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Exactement.
Tiens, juste pour conclure,
tu veux nous sortir, c'est ça?
En 15 secondes, Julien.
Et tout, tu veux sortir nos deux clubs d'un coup?
Une question de Piranha sur Direct Studio. Est-ce que Manchester United va jouer la Coupe de l'UEFA à fond?
Non, ils vont la jouer comme ils l'ont joué pour l'instant. Alors, certes, en faisant rapide, l'Europa League, non, mais. Mais si les tours qui arrivent offrent des adversaires un peu plus compliqués, un peu plus difficiles que ce qu'on a eu pour l'instant dans la phase de poule, je pense que Solskjaer renforcera sûrement son équipe. Sinon, l'idée, c'est encore de continuer à faire tourner, à faire sa rotation pour pouvoir avoir aussi une équipe très compétitive en première ligue, qui reste l'objectif, hein, essayer de finir dans les quatre premiers. C'est pas gagné forcément, mais c'est l'idée. Donc, mais après, selon l'adversaire, je pense qu'il renforcera quand même l'équipe,
quand même,
et on pourra voir
quelque chose, quoi, parce que championnat, comme tu dis, c'est a priori peu probable d'accrocher les quatre premières places. Après, il reste quoi? Moi, je veux bien, mais au moins l'Europa League, ça pourrait être un objectif pour Manu.
Donc, je pense qu'ils vont monter en puissance. Non, t'as raison, ils vont monter en puissance avec plus ça deviendra difficile, et je pense que plus il mettra une équipe de plus en plus forte.
Merci Julien. Bonne soirée.
Merci les gars, bonne émission.
Salut Julien.
Salut. À lundi.
Dans quelques instants, bien sûr, on parle Espagne, mais d'abord un petit point rapide sur Wolfsburg Saint-Etienne. Le score, Timothée.
24 minutes de jeu, 0-0 entre Saint-Etienne et Wolfsburg. Et une bonne occasion à se mettre sous la dent de part et d'autre.
Très bien, à tout de suite. Le grand jeu de Noël, tout de suite, c'est parti. Et oui, vous le savez, le grand jeu de Noël continue sur RMC tous les soirs jusqu'à Noël, c'est le principe. On a encore plein de choses à vous faire gagner ce soir. On a des télés, des iPhones, on a qu'est-ce qu'on a, des Google Home, qu'est-ce qu'on a encore, de magnifiques enceintes JBL. Donc n'hésitez pas à envoyer Noël par SMS au 732-16, Noël par SMS au 732-16 dès maintenant pour tenter votre chance et être tiré au sort. Le gagnant sera avec nous juste avant minuit. À tout de suite pour l'Espagne. Bilan Ligue des Champions dans l'after pour le moment, avant de parler de la Ligue 1 et de Lyon notamment un peu plus tard.
RMC, l'after foot, Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, bien sûr. L'Europa League est en cours. Wolfsburg, Saint-Etienne, Thibaut Mémon.
30 minutes de jeu, 0-0 entre les Verts qui jouent en gris et Wolfsburg qui joue en vert.
Les autres matchs, qu'est-ce qui se passe de notable, Arnaud Valadon?
Ah bah le match, je pense que Kevin a peut-être un œil là-dessus, c'est FC Porto Feyenoord. Porto qui menait 2-0 après un quart d'heure de jeu, un but de Luis Diaz, le ballon qui est passé sous le gardien, et un but contre son camp du latéral gauche de Feyenoord, Malacia. Et 8 minutes après, il y a 2-2 puisque Feyenoord est revenu avec une tête du défenseur Boteguin, et ensuite ce même Malacia qui avait marqué contre son camp a délivré un caviar pour Larsson. Deux partout dans cette rencontre. Pour l'instant, Porto est toujours qualifié dans la même poule. Les Glasgow Rangers, leader de cette poule, n'est pas encore qualifié, viennent d'ouvrir le score face à Berne. À noter que la Roma, qui s'est fait égaliser Florenzi contre son camp, est repassée devant face à Wolfsberger. C'est Dzeko qui a marqué, et Manchester United avec Martial titulaire. Ils sont déjà qualifiés, les Mancuniens. 0-0 pour l'instant pour la formation de Solskjaer.
Sur Direct Studio, on nous dit, c'est Nelson qui le dit, Giroud doit venir à l'OM, il n'y aura pas de problème avec Benedetto. En plus, Germain va partir en prêt à Rennes. Je ne sais pas s'il a des infos, Nelson, mais bon. Qui c'est celui-là, Pierre qui me dit envoyez-nous Giroud à Nantes, nous dit Pierre. Et puis Jean-Louis qui est là, qui lui dit salut l'after. Jean-Louis qui nous dit salut les gars. Je voulais vous dire que je suis pas un grand fan de foot, loin de là. Bon, je regarde l'équipe de France, voilà, pendant la Coupe du Monde, tout ça. J'ai pas forcément d'équipe. Et puis malgré tout ça, je vous écoute tous les soirs et j'ai du plaisir à vous écouter. Ça chambre, ça informe, ça partage son avis. Parfois c'est le bordel, on va pas se mentir. Continuez comme ça les gars, nous dit Jean-Louis.
Merci Jean-Louis.
Voilà, merci Jean-Louis.
Exactement. Bravo Gigi.
Fred Hermel est là, salut Fredo. Ah, voilà,
encore un 4 sur 4.
Fred Hermel est là, salut Fredo.
Hola Chico.
Ah bah voilà.
Fred, il faut appuyer sur le bouton là derrière.
T'es comme Julien, alors, bon élève, 4 sur 4.
Excusez-moi, problème, je peux pas. Je m'entends parler. Ah. Est-ce qu'on peut régler le problème technique? Parce que là, je m'entends parler avec un décalage.
Tu veux dire que tu te déranges quand tu t'entends parler?
Allô?
Ça veut dire que ta réflexion te dérange.
Fred doit avoir un écho dans son casque. Alors en général, quand on a un écho dans son casque, on enlève juste une oreille du casque.
Attention,
et ça fonctionne.
Parce que la prochaine étape, c'est que tu vas te faire chier tout seul.
Oh, Daniel, bon, enfin. Fred, est-ce que c'est réglé? Est-ce que tu nous entends? Bon, il reporte.
Il fait 4 sur 4 en Coupe d'Europe. Fred, il a un matériel déficient.
Ouais, Fred, allô, t'es là?
Oui.
Ah bah voilà.
Ah bah là ça va mieux.
Voilà.
Bah voilà. En fait c'est mieux quand je. En fait je suis mieux avec vous sur le plateau. Voilà.
Oui mais bon, si tu deviens t'installer à Paris, c'est plus Fred Hermel.
Ouais,
comment tu vas faire?
Correspondant, ouais. C'est
pour ça. Bah oui, c'est un peu le principe.
Tu demandes à Florentino Pérez de te faire une délocalisation de ton bureau.
Bah non, parce que moi je l'ai bien mon petit bureau à Bernabéu. C'est ça, 10 minutes à pied. Enfin, c'est quand même l'idéal. Ben oui, 4 sur 4, 7 sur 7.
Tiens, je crois que Marcus Thuram vient de marquer en Europa League. Ça, c'est une spéciale pour Paulo Breitner. Tu confirmes, Arnaud Valadon?
Marqué son deuxième but en 6 matchs, et Mönchengladbach qui se qualifie, valide sa qualification pour l'instant face au Turc de Başakşehir.
Très bien, donc Thuram qui marque. 4 sur 4, donc je disais Fredo, bravo.
Et 3 sur 3 en Europa League, c'est-à-dire que les 7 équipes espagnoles engagées en Coupe d'Europe se sont toutes qualifiées.
On rigole pas avec l'Europe en Espagne.
Ah non. Puis là, j'ai vu Retafe, là, ils ont battu Krasnodar 3-0.
Ouais, Retafe s'est qualifié tout à l'heure.
Mais ils se plaignent quand même en Espagne, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas possible de faire un match tous les 3 jours quand même. Hein.
Mais ça, ça, ils se plaignent tout le temps.
Non, c'est possible.
Mais non, mais c'est-à-dire que, en fait, en Espagne, tu sais, t'as le droit à 23 ou 24 joueurs. En France, t'as le droit à combien? 10-12, non?
Oui, mais ça doit être ça en fait. Ouais.
Non, mais les équipes. Non, mais après.
Bah, je sais pas, Saint-Etienne, ils en avaient 30 dans l'effectif et c'était déjà trop de faire deux matchs par semaine. Donc, ouais.
Non, mais franchement, c'est. Enfin, quand tu vois Retafe. Mais prenons Retafe. Retafe, c'est un petit budget. Ils ont failli se qualifier pour la Ligue des Champions la saison dernière. Là, ils sont hyper bien classés en championnat. Je crois qu'ils sont 6e. ils sont devant l'Atlético, ils sont qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Enfin, je veux dire, c'est alors c'est pas brillant dans le jeu, mais c'est ouais. C'est bien construit, c'est-à-dire qu'en première période, ils construisent leur victoire et là ils gagnent 3-0 quoi.
C'est dis-moi pas, d'ailleurs l'Atlético, ce serait pas une équipe finalement qui serait pas mal à prendre en 8e?
Alors, ça, c'est vraiment une bonne question. Je pense sincèrement que l'Atlético n'est jamais une équipe facile à prendre en match aller-retour. Parce qu'il y a, quand même une compétitivité dans cette équipe grâce à son entraîneur qui est quand même particulière. Le Wanda, c'est quand même 60 000 personnes. Enfin, c'est un vrai stade.
Ah bah, le mec qui prend l'Atlético et qui dit que c'est un bon tirage, excuse-moi.
Non,
mais...
je crois pas.
Non.
Mais,
tu le dis après, une fois que tu les as éliminés.
Voilà. Mais quand même, c'est pas rassurant cette qualification. Le match d'hier soir.
Oui, parce que là, le concept de qualification pas rassurante, faut voir que tu le détailles.
Ouais, mais c'est-à-dire que. Vous
connaissez des défaites moments... encourageantes au rugby?
Ouais, mais c'est vrai que ça a l'air un peu con ce que je dis, mais c'est une équipe. Enfin, c'est ce que je dis et c'est ce que reconnaît Simeone. Simeone est le premier à avoir reconnu il y a 10 jours après la défaite contre le Barça que c'était une saison de transition. Parce qu'il y a eu la moitié du 11 titulaire qui a changé. Il n'y a plus Griezmann, il n'y a plus Godin. Enfin, on l'a expliqué, il n'y a plus Juan Fran, il n'y a plus Rodri. Il n'y a plus Lucas Hernandez. Enfin, et donc, il y a de très bons joueurs, mais qui sont en train de grandir. Qui sont en train de se faire au moule de l'Atlético de Simeone. Parce que c'est vraiment, on est tous d'accord pour dire qu'il existe un concept de football qui est l'Atlético de Simeone. Tu t'adaptes, tu dois t'adapter. Le club va pas s'adapter à toi, l'équipe va pas s'adapter à toi. C'est vrai que João Félix, c'est pas mal, il a pris sa responsabilité, il marque. Mais il y a encore trop de nouveaux joueurs pour que ce soit l'équipe d'il y a deux, trois saisons, quoi. Donc, je pense sincèrement que ça peut pas être un bon tirage, mais c'est pas l'équipe la plus sûre d'Espagne aujourd'hui. La preuve, ils ne sont que 7e au classement de la Liga. Allô?
Oui, non, mais moi, l'Atlético, je sais pas. Après, c'est sûr que le tirage, faut toujours se méfier parce que le tirage que tu fais en décembre, les équipes, tu les affrontes en février. Donc,
surtout que l'Atlético
peut couler sous le pont.
Je me souviens d'il y a deux ans, le tirage de décembre où le PSG qui prend le Real et le PSG était favori pour tout le monde en France. Hein.
Non, mais pour
j'avais beau m'énerver contre ça, mais le PSG était favori.
Et en Espagne, on considérait que c'était vraiment un très très mauvais tirage pour le Real. Sauf que, et pour revenir sur le cas de l'Atlético, c'est vrai que comme c'est une équipe qui est en train d'évoluer, où les joueurs sont en train de s'intégrer, pour l'instant, l'intégration n'est pas faite. Mais dans deux mois, où est-ce qu'ils en seront? Est-ce que la mayonnaise va prendre? Voilà, c'est très difficile d'analyser, mais je pense sincèrement que l'Atlético n'est pas un cadre européen et que et je termine là-dessus. Le gros souci de l'Atlético, c'est de se qualifier, c'est de finir dans les quatre premiers pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et là, c'est pas gagné parce qu'il y a des équipes comme Séville, il y a Retafe bien entendu, mais il y a Séville et la Real Sociedad qui sont aujourd'hui plus fortes et qui jouent mieux au football que cette équipe de l'Atlético.
On va parler du Barça avec Fred au 32-16. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir Ami Tocayo.
Fidèle. Voilà Tocayo.
Voilà Tocayo.
Bon, qu'est-ce que t'en as pensé là de cette phase de poule du Barça?
La phase de poule du Barça, elle a été ce qu'elle a été. On finit premier, c'est bien. Ça a été un peu difficile, notamment contre Dortmund. Après, moi, je vois un Barça quand même qui est monté en puissance.
Tu veux dire contre Dortmund, le premier match où Dortmund domine largement et Ter Stegen est extraordinaire.
On a un grand Ter Stegen, comme on a besoin dans les grandes équipes qui gagnent la Ligue des Champions cette année. On a besoin de grands gardiens et Ter Stegen en fait clairement partie.
C'est le meilleur.
Après, moi, je pense que depuis l'arrivée de Griezmann, depuis les premiers matchs de septembre, on est monté petit à petit en puissance. Il commence à trouver de plus en plus sa place, au même titre que De Jong dans le milieu de terrain. On commence à trouver petit à petit une mouture en milieu de terrain avec un retour de Rakitic.
Intéressant. Je me permets de te couper parce que Rakitic, il y a même deux mois, il comptait plus pour l'entraîneur et on pensait qu'il allait partir en
même l'été dernier, on a l'impression qu'ils étaient prêts à le mettre dans n'importe quel paquet pour l'envoyer Dieu sait où.
Exactement. Et quand il y avait les négociations du Barça pour Neymar avec le PSG, Rakitic était mis dans le package.
Exactement.
Mais tu as remarqué, Fred, que Valverde a quand même changé son opinion sur.
Oui, il a changé.
Il revient et ça va quand même beaucoup mieux au milieu de terrain depuis qu'il est là.
Parce qu'il a peut-être aussi compris que Rakitic avait sa place au milieu de terrain et De Jong n'était pas forcément la doublure attendue pour Busquets. De Jong a sa place en milieu de terrain. Il a besoin d'apporter quelque chose d'ailleurs, au niveau offensif.
D'ailleurs, messieurs, juste, je te coupe, Frédéric, mais bon, je demande aux deux Fred, du coup. De Jong, vous qui le voyez sûrement plus régulièrement que nous et qui a énormément manqué, mais ça on aura le temps d'en parler à l'Ajax encore hier face à Valence. Mais c'est comment Fredo, De Jong
Il est pas encore à la maison, quoi. Il faudra du temps, je pense.
Même. Et puis il a besoin de quelqu'un derrière pour faire le boulot défensif, quoi.
Le dernier match de ce week-end, il a clairement été un apport offensif important dans l'équipe. C'était indéniable.
Petit à petit, trouve sa place. Il a besoin de quelqu'un derrière pour faire le travail défensif.
Il a besoin de quelqu'un qui est derrière, tout à fait. Voilà. Tout à fait, ça c'est sûr.
Est-ce que le Barça, selon vous, ça se range dans les favoris à la Ligue des Champions? Parce que ces dernières années, le Barça collectionne quand même les parcours en Ligue des Champions assez étonnants où ils peuvent faire de grandes choses. Et puis après, quand ils sont éliminés, c'est au terme de match où ils terminent les ridiculisés, quoi. Juve, évidemment, celui de l'année dernière.
Liverpool, je pense que le Barça,
j'ai oublié la Roma aussi, bien sûr. Voilà, il m'en manquait un, mais ça fait trois quand même. Et depuis 2015, où ils l'ont gagné, et forcément, on fait le lien avec le fait que cette année-là, le milieu de terrain est encore celui, le milieu de terrain extraordinaire de toutes les conquêtes, quoi.
Ouais. Mais alors, il y a une statistique qui est sortie hier. Le fameux Mr. Chip, qui est le grand statistic man de la presse espagnole. Luis Suarez est devenu le numéro 9, l'attaquant de pointe. Il a battu un record négatif. Jamais aucun attaquant de pointe de l'histoire de la Ligue des Champions n'avait passé 21 matchs à l'extérieur sans marquer. Mm-hmm. Est-ce que c'est pas là aussi le problème d'avoir un numéro 9 qui ne marque pas à l'extérieur?
Après, il crée des espaces. Il crée des espaces,
oui,
pour Messi.
Mais rappelle-toi par exemple le match à Liverpool. Enfin, tu vois,
il n'est pas clairement.
Dans un grand jour et il y a.
Non, on attendait numéro 9 qui claque des buts, ça c'est certain.
Mais oui, non, mais numéro 9, tu te rends compte, jamais aucun numéro 9 de l'histoire de la Ligue des Champions n'avait passé 20 matchs sans marquer à l'extérieur. Ça peut pas être. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je pense que. Enfin. Que l'intégration de Griezmann, elle sera décisive pour qu'il y ait une victoire en Ligue des Champions du Barça. C'est pas possible de faire sans Griezmann.
Frédéric, merci.
Merci à tous. Je passe un petit coucou. Je passe un coucou général à tout le SRPJ 34.
Ça marche, c'est fait. Salut, salut Frédéric.
Salut.
L'Oréal, quel bilan tu fais de la phase de poule, là, Fred? Qu'est-ce qu'on en dit à Madrid?
Bah, ils se sont fait très peur, quand même. Ils se sont fait très, très peur. Enfin, j'étais à Bernabéu quand, 47e minute, alors que le Real est mené 2-0, Areola, qui vient de remplacer Courtois face à Bruges, fait un arrêt fabuleux dans un 1 contre 1. C'était le 3-0. Et 3-0, et là, le Real ne dépendait plus de lui-même pour son destin. Finalement, il termine deuxième. Voilà, les derniers matchs, notamment le match contre le PSG, est quand même très beau au niveau du jeu. Hier à Bruges, avec que les jeunes, ça marche, ils gagnent 3-1. Mais, voilà, ce Real-là est en train de grandir. Zidane a trouvé son équipe, c'est-à-dire a trouvé son milieu de terrain avec Valverde, avec Kroos et avec Casemiro. Voilà, le Real est vraiment passé à côté de la catastrophe, mais comme souvent, et là je suis sûr que Daniel sera d'accord avec moi, comme souvent ça se passe avec le Real, avec les très grands clubs, c'est ric-rac parfois en début de saison, et après ça fonctionne bien.
Il aurait arrivé au Real, effectivement, comme tu dis, d'être pas bon dans la première partie, et effectivement ensuite de s'affirmer. Mais comment dire, on le sentait venir. Moi, souvent, ça ne m'inquiétait pas du tout. Je sentais effectivement... Surtout quand t'avais des mecs comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, où tu sentais vraiment les mecs démarrer pépère et tu savais qu'au mois dès fin février, c'était plus les mêmes mecs. Néanmoins, là, et c'est la première, alors peut-être ça se passera pas comme ça, mais je trouve que, et l'année dernière, pareil, ça me laissait ce sentiment. Pendant très longtemps, Real et Barça, c'était, je les mettais en 1-2 des favoris pour la victoire finale. Là, oui, évidemment, c'est pas des équipes simples à sortir. Bien sûr, on est en train de parler de très grosses équipes, mais j'ai pas envie de te les coller dans les. Je me dis que c'est prenable. Je me dis que c'est pas des équipes intouchables, ouais, comme elles ont pu l'être à un moment.
C'est possible. Ouais, je pense que tu as raison parce que je termine simplement. Je te passe la parole. Le Real, c'est quand même une inconnue. Il y a quand même eu des bouleversements dans cette équipe. Mais j'ai quand même le sentiment que le milieu de terrain il est béton aujourd'hui et que c'est devenu une équipe très sûre. Et en plus Courtois s'est intégré. Dis-moi,
Kevin. Ouais. Donc Fredo, tu parlais du milieu de terrain. Toi qui as tes entrées au Real et avec même avec le président Florentino, je vous donne un petit tip, un petit conseil néerlandais. T'as parlé de Valverde. Pour moi, Valverde, je vous le dis tout de suite, hein, c'est largement meilleur. Je dis largement meilleur, j'exagère un peu. En tout cas, c'est clairement meilleur que Van de Beek. Hein. Économisez votre argent, parce que moi, tout ce que j'ai vu de Valverde, c'est vraiment meilleur. Et pourtant, vous savez
combien. Pourquoi tu nous mets, tu nous dis qu'un Hollandais est moins bon qu'un autre?
Non, mais vraiment, je le pense. Je le disais déjà l'année dernière. Pour moi, Van de Beek, c'est un bon joueur. Mais ça va faire une Davy Klaassen qui était partie à Everton et qui avait pas réussi. Pour moi, Valverde, c'est largement meilleur.
Mais simplement, répondre à Kevin par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle, comme le Real voulait pas claquer 150 millions sur Pogba et que Zidane n'était pas content, que le Real a négocié avec Van de Beek, il y avait un accord, ils ont proposé à Zidane et Zidane a dit non, si c'est pas Pogba, je veux personne. Bah pourquoi? Parce qu'il
s'est un mot de Valence, Fred, pour conclure.
Ah ben c'est la très belle surprise. Vraiment, Valence, c'est moi, je tablais sur 3, sur 4.
Lyon rêve de Valence au tirage au sort. Hein.
Non, mais ils rêvent ou quoi? Mais ils ont pas. Ah oui. Alors Kevin, enfin.
Non, mais parce que surtout parce que sur le plateau complet.
Parce que c'est quand même mieux que City, Liverpool ou le Bayern.
Ça
semble
mieux, mais pour moi c'est supérieur à Lyon. Hein, c'est supérieur à Lyon, mais plus largement.
Parce que il y a une solidarité. Parce que on a encore 2 minutes quand même, parce qu'il faut expliquer, parce que je trouve que c'est.
On a plus 2 minutes, mais en 1 minute, vas-y.
En 1 minute, vous vous souvenez, il y a quand même début de saison, l'entraîneur qui s'est viré, les joueurs, les cadres qui se rebellent.
Tu disais à l'époque que c'était pas très confiant pour la suite, ça a marché.
Ah non, mais attends, mais il y a des joueurs, enfin des joueurs comme Garay qui faisaient des messages sur Facebook ou sur Twitter pour attaquer directement le propriétaire Monsieur Slim de Singapour. Enfin non, on disait ça y est, ça va se barrer. En plus c'est la DES,
Monsieur Slim,
dire,
qui ne vend pas de pantalon, contrairement à ce que son nom. Indique.
Voilà, non. Peter Slim. Et il se trouve.
C'est Slim, c'est pas Slim en plus.
Slim, putain, oui. Mais oui, je me disais que j'avais dit une connerie. Je suis un peu fatigué. Et en fait, le Celades, on peut pas dire que ce soit un grand entraîneur, on peut pas dire qu'il ait un charisme énorme.
Ouais, mais il a une chanson quand même.
Se sont pris en main.
C'est ça aussi.
Ouais.
Les joueurs se sont pris en main. David Martial, je l'ai bien dit celui-là. Tu vois,
mais c'est ça que j'ai cherché.
De quoi?
Mais l'autre jour, dans la voiture avec Fred Piquion, avec sa playlist Moisy. Là.
Ah, tu sais qu'il t'a écouté hier et il a pas aimé que tu critiques sa playlist. Hein. Je peux le lire.
C'est ça que j'ai cherché. Je lui disais, t'as même pas du David Martial dans ta playlist.
Il m'a envoyé un message, il a pas du tout apprécié.
Fredo, hier, c'est quand même
tu l'as vexé.
Mardi, c'est quand même un petit hold-up.
Pas du tout, il a compris que c'était une blague.
Le ballon était également très diminué par des absences. Bon.
Stop, c'est fini.
Il manquait 8 joueurs à Valence, plus la blessure de Gamero, ça faisait 9. Et ils vont gagner à l'Ajax, donc c'est une qualification méritée. Il gagne à Chelsea, il gagne à l'Ajax, donc il mérite.
Merci Fredo.
Adios, Chicos.
Ciao, Timothée, le point score, c'est la mi-temps hein, entre Wolfsburg et Saint-Etienne.
C'est la mi-temps, 0-0 entre Wolfsburg et Saint-Etienne. Wolfsburg a eu une très très grosse occasion en fin de première période. On en reste à 0-0 et puis on a une petite pensée pour Hervé et Patrick Rivelli qui ont perdu leur frère Daniel qui avait joué à Aix-en-Provence pendant 1 an. Voilà, grosse pensée pour la famille Rivelli, importante à Saint-Etienne.
À tout à l'heure pour la deuxième mi-temps, bien sûr. On retrouvera Arnaud Valadon également dans quelques instants pour faire un point. Plus Paulo Breitner qui lui fait un petit 3 sur 4. Bon, à l'échelle de l'Allemagne, il n'est pas mécontent. On en reparle dans quelques instants dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Kevin Diaz est là, le 32-16 est ouvert bien sûr pour vous tous pour débattre avec nous. Bilan Ligue des Champions, ce soir on a parlé Espagne, on a parlé Angleterre, on parle tout de suite Allemagne. Paulo Breitner nous rejoint, salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir Kevin, bonsoir mon cher Daniel.
Alors avant d'aller plus loin, un petit point sur les scores à la mi-temps des matchs d'Europa League. Le principales infos qu'il faut avoir, Arnaud Valadon, en dehors des clubs français hein, bien sûr.
Oui, Porto qui est repassé devant face à Feyenoord, 3-2 à la mi-temps, c'est Tiquinho Suarez dans ce groupe. Les Glasgow Rangers et Porto valident pour l'instant leur ticket. Et à noter que le Borussia Mönchengladbach est à égalité avec les Stambouliotes de Başakşehir. Un partout, Marcus Thuram avait marqué, la Roma dans ce groupe mène 2-1 face à Wolfsberger.
Et qui c'est qui a marqué mon petit Polo?
Sur un superbe centre de l'Autrichien Leiner. Il avait juste à pousser le ballon.
Marcus Thuram donc. Même pas il dit son nom. Hein, non, mais
Polo n'est pas fan. Non mais c'est bien.
Alors Ligue des Champions, tu fais 3 sur 4. Polo,
oui,
tu avais prédit 2 sur 4 toi.
Moi j'avais dit au minimum 2 sur 4. 3, c'est bien. 4, c'était compliqué, d'autant plus que Leverkusen, évidemment, se tire une balle dans le pied en perdant à domicile la première journée contre le Loco Moscou. Donc, c'est un peu dommage. Il y avait de quoi faire, surtout que Leverkusen avait été dans une bonne période. Mais bon, c'est comme ça. C'est Leverkusen, on a l'habitude.
Bon, donc on passera vite sur les Leverkusen. Parlons un peu du Borussia Dortmund, adversaire potentiel du PSG, qui d'ailleurs serait en passe de recruter Haaland. Tu nous confirmes cette information?
Pour Dortmund?
Ouais.
Ah, il va pas à Leipzig finalement?
Je ne peux pas confirmer cette information que le Borussia Dortmund est intéressé pour la venue du Norvégien. C'est une certitude, d'autant plus qu'on veut absolument au minimum un remplaçant à Paco Alcacer, qui n'est d'ailleurs pas toujours titulaire parce qu'il est aussi souvent blessé. Et d'ailleurs, Lucien Favre n'utilise pas forcément dans toute sa carrière de vrai neuf, donc c'est un petit peu compliqué. Maintenant, s'ils ont la possibilité de le faire, pourquoi pas? Mais honnêtement, je ne confirme pas l'information. Je pense qu'il y a des négociations. Michael Zorc, le directeur sportif, il y a plus d'une semaine, en parlait déjà, mais ne voulait pas évoquer l'affaire dans la presse, parce que pour une question de respect entre les clubs, comme ils disent.
Bon, très bien. Dortmund, c'est bon à prendre ou pas alors, pour Paris? Bon,
c'est très compliqué de juger le Borussia Dortmund d'aujourd'hui. En gros, celui que j'ai encore vu en Ligue des Champions battre Prague, c'est en gros celui qui s'est fait éclater l'année dernière contre Tottenham en 8e. Et d'ailleurs, le meilleur joueur du match, c'était le gardien Burki, donc c'est compliqué. Maintenant, si, honnêtement, il va y avoir une trêve internationale. Vous savez qu'en Allemagne, il y en a quelques-unes, elle va durer un peu moins d'un mois. Si on pouvait retrouver le Borussia Dortmund qui a joué son premier match contre le Barça, je pense que celui-là n'est pas facile à prendre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment de 11 titulaires, on joue sans véritable attaquant, on est passé dans une défense à 3 qui est très très rare dans l'historique d'ailleurs de Lucien Favre, donc on est un peu, je suis un peu dubitatif.
Et lui, il en est où d'ailleurs sa situation, Polo, Lucien Favre?
Il en est à 3 victoires consécutives à la suite, donc bon.
Donc ça s'est calmé, oui, un peu.
Ça s'est calmé, mais surtout il y a pas grand monde sur le marché. Hein. En plus, on est quasiment là au bout de 6 mois maintenant de compétition. C'est son effectif. Je sais de sources sûres qu'il y a aucun problème dans le vestiaire par rapport à Lucien Favre. C'est-à-dire que toute l'équipe est derrière lui, malgré les écarts de comportement de l'anglais Sancho. Mais ça, c'est plus un problème générationnel. On avait parlé un petit peu, Daniel, tu sais, il y a quelques jours, ce nouveau type de comportement qu'on voit aussi dans le football allemand. Des jeunes qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent dès le départ et qui sont plus forcément de grands professionnels. Donc c'est un débat très important en ce moment de l'autre côté du Rhin. Mais si tu veux, le potentiel encore une fois est là, même si j'aime pas ce mot-là. Le problème, c'est de savoir avec qui on joue devant. Julian Brandt en ce moment est en train de devenir un véritable titulaire. Sancho, de par son talent, c'est sûr. Thorgan Hazard est évidemment un ailier numéro 10 qui est intéressant. Marco Reus, le capitaine, est indiscutable. Mais est-ce qu'on joue avec un 9? Et si tu mets un 9, t'enlèves un des gars qui sont derrière. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est un équilibre. J'ai envie de dire, j'espère voir un beau Dortmund au mois de février, mais surtout merci au Barça, quoi. Sinon Dortmund ne serait pas en 8e.
Et c'est quoi le match?
Dans quelques instants, on va revenir avec Polo. Tu restes avec nous. Pause, on va parler du Bayern. On va parler évidemment. On pourra conclure sur Dortmund.
Oui, j'ai une question pour finir sur Dortmund.
Un mot sur Leipzig également. Et puis on passera également à l'Italie évidemment, puisque Simone nous attend. Et puis Kevin Diaz, il a fait 0 sur 2 à Ajax et Benfica. Au revoir, va falloir qu'il s'explique, le petit Kevin.
Au revoir.
Dernier de la classe.
Ah, jeudi,
Kevin. Ah oui, ça, tu vois, ouais, ça va être ton soir.
Je vais devenir le king du jeudi. Hein.
Au revoir. Bon, faut pas abuser quand même.
C'est mon cher Kevin aussi, ça n'a rien à voir. J'ai oublié tout à l'heure, mon cher.
À tout à l'heure, messieurs, on se retrouve tout à l'heure.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
Mais j'espère que la retour va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font les bonheurs des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz, toujours parmi nous, Daniel Riolo, et qui c'est qui le rejoint, l'homme qui a brillé de mille feux sur la scène européenne et mondiale, évidemment, et Bourguignonne.
il commence par ça, ouais.
Bah, non, mais tout est vrai.
Salut les copains,
Lionel Charbonnier,
bonsoir
salut,
à tous.
Ça va?
Ouais, très bien.
Bah écoute, on est content de t'avoir.
Bah, je suis content d'être là.
Comment ça fait partie des meubles de l'after, un peu comme Kevin. Hein.
Et je te promets qu'on l'a pas fait exprès. Hein. Mais là, t'arrives, tu prends la discussion en cours de route. On est en train de parler avec Polo. On va reprendre la discussion et on parle de Dortmund. Mais on l'a pas fait exprès, je te promets.
Ouais. Poursuivi par Dortmund, le pauvre Lionel.
Je dégage, quoi. Ouais, ça me...
Merci, merci.
J'ai vu, tu t'es assis, j'ai repensé à la discussion qu'il faut qu'on reprenne. J'ai vu les maillots jaunes et j'ai vu ta tronche et je me dis merde.
Ils sont nuls, ces Allemands. Ils sont nuls.
Il n'y a pas eu un but en 6 ans retourné.
Ah, je sais pas s'il l'a bien vu.
De toute façon, ils sont pas. Si c'est contre Dortmund, il les accorde pas.
Lionel, il était loin de l'action, il a pas bien vu.
Juste avant, c'est reparti entre Wolfsburg et Saint-Etienne, Timothée Mémon.
46e minute de jeu, c'est reparti effectivement. Les Stéphanois qui ont effectué un changement, la sortie de Jean Daoulou remplacé par Franck Honorat. Les Stéphanois qui vont passer dans un 4-4-2 un peu plus classique devant 800 spectateurs de Saint-Etienne qui ont fait le déplacement pour cette rencontre sans enjeu. Quand on vous dit que la Coupe d'Europe fait partie de l'ADN de Saint-Etienne, quand on voit le résultat du club, ça saute pas aux yeux. Quand on voit la ferveur, ça devient évident.
Et moi, j'ai Gizmo qui nous signale sur le hashtag RMC Live que, selon certaines sources bien autorisées, ce serait ton anniversaire.
Ah, effectivement, les sources sont bonnes.
Excellent. Bah écoute, bon anniversaire.
Je te remercie, je vous remercie.
Bravo Gizmo. L'After te souhaite un bon anniversaire, que tu as donc choisi d'aller passer à Wolfsburg. Écoute, c'est
absolument.
Un choix.
Absolument. Mais tu sais que le 12 décembre, c'est souvent la dernière journée d'Europa League et j'ai passé sur les 5-6 dernières années plus d'anniversaires à Kiev, en Allemagne, en déplacement qu'en famille. Mais c'est comme ça. Quand on aime le foot, c'est une récompense.
Peut-être que tu préfères au fond. Hein. C'est pas si grave. Hein.
J'avoue que j'accorde peu d'importance à cette date. Donc, effectivement,
oh,
c'est.
Oh, qui s'en fout de l'anniversaire?
Non, il y a pas besoin d'un certain âge, effectivement.
Ouais. Mais quand jeune, il est tout fringant.
Il a commencé à
l'âge d'aller faire la fête dans les établissements de nuit de Saint-Etienne, qu'il a écumé dans sa jeunesse, là. Notamment le donjon où il était tout le temps à une époque.
Oh là, tu connais, t'es bien renseigné, mon poulet.
Je sais que tu m'as parlé de ces soirées au donjon.
Je m'en sors bien, Daniel, c'est que tu te souviens pas du vrai nom.
Ouais, c'est mais ça. J'ai oublié, c'était quoi le vrai nom? Allez, dis-le.
Il y a le Club Inbox pour se garder des boîtes de nuit et pour faire la référence que tu cites, c'est le Moloko.
Ah, le Moloko, oui, le Moloko.
Tu te souviens du Moloko? On va parler, allons.
Le Moloko. Yannel, le Moloko à Saint-Etienne.
C'est vrai que le Moloko à Saint-Etienne, ça coulait
pas. Si t'as un truc à échanger, sinon j'y vas pas.
Ah. À tout à l'heure, toujours 0-0. Bien Moloko. Sûr. Et on suit la soirée d'Europa League. Je rappelle que Rennes a gagné 2-0 hein, tout à l'heure face à la Lazio.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à Rennes?
Bah, ils jouent plus rien, donc du coup, ils sont lâchés.
Ils sont libérés. Ouais.
Bah, d'ailleurs, supporters Rennais, si vous voulez intervenir, 32-16. Hein, vous êtes les bienvenus dans l'after, évidemment. Alors, on était sur Dortmund. Et Bruno veut parler de Dortmund, tout comme Polo, hein, qui est là, tout comme Daniel. Oui, Polo.
Gilbert, excuse-moi, est-ce que je peux préciser 10 secondes sur ce qui s'est passé avec Haaland? En fait, il a différentes possibilités, donc des grands clubs européens, etc., dont le Borussia Dortmund, dont le club de Leipzig, donc la filiale de Salzbourg. Et en fait, il fait la tournée des popotes pour voir les installations.
C'est deux clubs, il y a des clubs anglais.
Il y en a d'autres.
Le tour pour voir les installations.
Voilà. Je dis ça comme ça parce que c'est la version officielle du RB Salzbourg.
Donc, en gros, il va négocier la thune, quoi.
Tu m'as fait peur, Polo, quand tu as parlé de l'Asland.
Ah oui, d'accord. Oui. Non, mais de toute façon.
Du coup, je voulais parler de Dortmund, j'ai oublié de poser la question avant la
pub. Le match référence, non, peut-être.
Ah oui, non, voilà. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que le retournement de situation dans le match, dans le magnifique match contre l'Inter, c'est leur match référence et est-ce qu'il est en Ligue des Champions, justement, le match référence cette année?
Moi, j'ai pas le sentiment. Il y a le 4-0 qu'ils ont infligé à Leverkusen qui était assez impressionnant.
Ouais,
Et en Ligue des Champions, il y a quand même le premier match contre le Barça. Tu as raison de citer le match contre l'Inter, mais si tu veux, c'est un Borussia Dortmund qui réagit plus qu'il n'agit. C'est-à-dire que l'Inter, sur l'ensemble des deux confrontations, a été supérieur au Borussia Dortmund. Et donc, il y a cette fameuse deuxième mi-temps où le Borussia est mené 2-0, il finit à 3-2.
Ah, mais ça marque les esprits, 0-2.
Ouais, ça fait marquer les esprits, mais si tu veux, dans le contenu, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Et la vraie référence en Ligue des Champions, c'est quand même le 0-0 contre le Barça, donc la première journée où il ne manquait qu'une seule chose, c'est les buts, quoi. Et
donc ils ont quand même plusieurs bons matchs cette année.
Ah oui, non, mais le problème, si tu veux, c'est que c'est très inconstant, mais j'ai envie de dire, c'est presque à l'image du football allemand depuis le début des compétitions aussi bien européennes. C'est-à-dire que le bilan est pas mauvais, mais quand tu vois le contenu des matchs, on a encore vu ce soir Francfort qui perd d'une façon scandaleuse à domicile contre une équipe qui est éliminée et qui m'a encore fait des hauts de cœur. Il y a des choses comme ça qui arrivent systématiquement, et à la fin, tu te dis, ah bah, c'est bon, ils sont qualifiés, mais tu te dis, mais ça va donner quoi en huitième, et on ne sait pas trop. Et le Borussia Dortmund, c'est ça. Moi, j'attends un gros match, évidemment, de toute façon, ce sera une superbe affiche en huitième, mais dans l'inconstance, alors que qu'on sait que Lucien Favre est quelqu'un d'extrêmement méticuleux, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Encore une fois, le problème du titulaire, on ne sait pas son passage en défense à 3. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de toute l'histoire de Lucien Favre. Les joueurs titulaires au milieu de terrain, une fois ils sont bons, exceptionnels, une fois ils font rien du tout. Witzel, on sait très bien que c'est un leader technique, mais pas un leader de vestiaire. Qui on met à côté, Weigl, il s'y veut encore expulser alors qu'on l'attend pas du tout. Il y a des choses comme ça. Qui est arrière gauche, qui est arrière droit. Il y a des joueurs qui sont hors de forme et tout ça fait encore est très dubitatif. Moi, pour moi, c'est très dubitatif. Encore une fois, contre Prague, qui était éliminé, c'est le gardien Burki qui a été l'homme du match. Ouais, donc c'est un peu, c'est un peu moyen, quoi.
Bon, en tout cas, si c'est un PSG Dortmund, on ira ensemble.
Mais c'est ce qu'ils veulent en Allemagne.
Hein, ce sera bien. Là, au moins, c'est toi qui choisiras les restos, c'est toi qui nous guidera. Hein, si on va
PSG Dortmund, c'est le touche hélico quand même.
Ouais, en fait, il y a le Clopico et le Tuchelco, en fait. Ils veulent soit Liverpool, soit le PSG.
Un mot sur le Bayern?
Bon, écoute, le Bayern, c'est quand même extraordinaire. Ça fait depuis le début de la saison qu'on parle de crise au Bayern Munich, aussi bien au niveau des transferts. Rappelez-vous la blessure de Leroy Sané. Ils ont quand même éjecté un coach, Niko Kovac, on l'attendait, etc. Et finalement, ils font 6 sur 6 en Ligue des Champions, qui est quand même un record extrêmement rare. Et puis, on se dit, mais alors oui, ok, le groupe était pas extraordinaire. Ok, peut-être Tottenham est pas bien, mais il y a le 7-2 quand même gagné en Angleterre.
Ah, but de Wolfsburg. Tiens, ça tombe bien, c'est pendant. C'est chez Polo là que
Wolfsburg,
Marc.
Et
but de Wolfsburg, effectivement, à l'instant, avec une montée côté gauche de Paulo Silva, dit Otavio, qui est monté dans la surface de réparation, qui a bien été décalé sur le côté gauche et qui marque en force au premier poteau. Paulo Silva, Otavio, donc 1-0 en faveur de Wolfsburg. Ça ne change rien parce que dans le même temps, la Gantoise mène 2-0 face à Alexandria. Statu quo donc au classement. Gent et Wolfsburg qualifiés. Gent premier de groupe, Wolfsburg second. Les loups qui inscrivent donc ce but emmené par une colonie de Français ou de francophones d'anciens de la Ligue 1. On pense par exemple à Marcel Tisserand qui est en défense centrale et qui fait un match impérial.
Très bien, Wolfsburg, c'est pas le club préféré de Polo, hein, mais bon.
Non, mais par contre, là, ce soir, c'est l'équipe B de chez l'équipe B, plus des deux. En fait, il n'y a plus personne, il n'y a pas de titulaire, excepté Tisserand, qui est la bonne surprise de la saison, d'ailleurs, puisqu'il a réussi à s'installer dans une défense à 3 depuis quelques matchs. Honnêtement, il y a deux blessés qui reviennent, c'est Ginzet et Schlager, que j'espère qu'on verra en deuxième partie de saison, l'Autrichien. Voilà, mais bon, c'est vraiment l'équipe B de Wolfsburg, et d'ailleurs, la deuxième place est quand même assez catastrophique par rapport au groupe qui était assez faible, il faut le dire quand même.
Alors, sur le Bayern, donc
En fait, ce qui est très intéressant pour moi aujourd'hui, c'est de regarder ce que fait Hansi Flick depuis son arrivée. On sait bien qu'il en est sur deux défaites à la suite en championnat, mais qui sont des défaites complètement imméritées, aussi bien à domicile contre Leverkusen qu'à Mönchengladbach. Si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est que Coutinho et Thiago Alcantara sont aujourd'hui sortis de l'équipe type. Que Thomas Müller est revenu et que ça marche très bien. Par contre, à l'inverse,
Lewandowski. Thomas Müller, ça marche très bien, t'exagères, Polo.
Bah écoute, depuis qu'il est redevenu titulaire, il marche très bien, Thomas Müller, excuse-moi. Je pensais à Thuram en même temps. je suis omnibulé. Et par contre, il y a Robert Lewandowski qui, lui, de notre côté, ne marque plus vraiment. Alors, il jouait pas, évidemment, pour le sixième match, mais il marque moins bien en ce moment.
Comment ils vivent ça en Allemagne? Je veux dire, le Bayern claque l'oseille pour avoir Coutinho, qui est quand même, il arrive avec un statut de vedette. Et le mec, il va sur le banc et on se dit pas, c'est un échec dans le recrutement, on dit pas le Bayern a déconné,
on n'est pas encore là. Mais si tu veux, on est dans une phase extrêmement complexe. Rappelle-toi quand même que le mercato Coutinho, on en parle à la fin du mercato, hein, on est estival, on n'en parle pas durant l'été, hein. C'est-à-dire qu'au départ, c'est Leroy Sané. À partir du moment où Leroy Sané se blesse, et ben il y a Coutinho qui débarque, il y a Perisic qui débarque. Je suis désolé, j'aime beaucoup Perisic, c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Donc là, à mon avis, il y a un vrai problème dans le recrutement, d'autant plus qu'on n'a pas résolu vraiment ce qui s'est passé derrière avec les blessures d'Hernandez et puis Boateng, Martinez, qui sont, disons-le très clairement aussi, en fin de carrière et assez catastrophique. Martinez se fait expulser comme Boateng assez souvent, et on ne sait pas s'il est 6, on ne sait pas s'il est en défense centrale. La bonne surprise, j'ai envie de dire, j'en suis à ce niveau-là, la bonne surprise du Bayern Munich, c'est le jeune latéral gauche, Davis, le Canadien, qui a 18 ans, qu'on nous a vendu comme un ailier qui en fait joue plus au poste d'arrière gauche, à la place d'Alaba, qui est soit blessé, soit remis en ce moment en défense centrale. Enfin, on a quand même une défense centrale, Boateng à la bas en ce moment, donc c'est pas forcément la sécurité. Donc
ça manque d'un entraîneur qui fait un peu le ménage dans tout ça quand même.
Ben, le problème, c'est qu'on peut pas faire le ménage tout le temps. Il y a un moment, il y a des choix. Lui, il était pas prévu.
Ménage, je voulais dire qu'il range un peu tout ça.
Encore une fois, personne ne critique Hansi Flick en ce moment parce que on a bien vu les performances depuis de Dortmund, du Bayern, qui se sont améliorées depuis sa prise de fonction. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le problème, c'est aujourd'hui très clairement la grande nouveauté d'Hansi Flick, c'est d'avoir amené Thomas Müller, de remettre Thomas Müller dans l'effectif en numéro 8 aux côtés de Goretzka. Donc il a complètement éliminé Tolisso qui en plus est blessé, et surtout d'avoir Kimmich en numéro 6. C'est ça le milieu. Donc c'est un vrai 4-3-3 avec théoriquement Coman sur la gauche, Gnabry sur la droite et Lewandowski. Ensuite, les alternatives aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a au milieu avec Thiago Alcantara, mais encore une fois, dès qu'on lui fait une remarque, il dit je préfère faire une belle passe qu'un beau tacle, donc si on le met en position de numéro 6, c'est un peu compliqué. Il y a tous les blessés en défense centrale, il y a Pavard qui certes offensivement apporte des choses, notamment via ses statistiques et ses buts, mais défensivement c'est quand même pas non plus la sécurité sociale. Au poste d'arrière-gauche, c'est compliqué, Hernandez est pas là, heureusement que Manuel Neuer tient la baraque, quoi. C'est un peu compliqué. Ils sont que septième en Bundesliga. C'est pas neutre, hein. Ça fait combien de temps que le Bayern n'a pas été à ce niveau-là? Ils sont sortis. Ils
choquent un peu presque.
Bon, alors ils vont le revenir, tu vas voir, parce que d'ici là, qu'ils ont un calendrier plus facile, ils vont revenir dans les premières places. Mais c'est, pour la première fois, si tu veux, on considère toujours que le Bayern, par exemple, est favori pour la Bundesliga. Mais il y a la psyche qui est pas loin. Alors que d'habitude, tu vois, c'est quand même largement au-dessus. Par contre, si on me demande est-ce que le Bayern peut remporter la Ligue des Champions, et ben quand je vois les équipes européennes et que c'est un peu le trouble un peu partout parce qu'il y a des nouveaux effectifs, je me dis le Bayern peut très bien y arriver.
Voilà. Tiens, on va conclure l'Allemagne avec Bruno. On va pas parler de Leipzig parce qu'on en a beaucoup parlé entre hier et avant-hier de Leipzig. Bruno, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Bruno.
Il y avait pied au Lyon l'Islande.
Pardon?
Il y avait pied au Lyon l'Islande, j'aurais sifflé aussi.
Arrête tes conneries. Il était à 2 mètres l'autre là-bas.
Et ouais, ils sont là les supporters de Dortmund. Hein. Eh oui.
C'est les générations 97, ça. Non, Bruno?
Des bonnes générations. Ah,
j'étais déjà au lycée en 97, mais c'est gentil de me rajeunir.
Bon, tu voulais parler de Dortmund, du Borussia ou des résultats allemands en général?
Oh bon, on peut parler du Borussia, parce que Polo se demandait, effectivement, c'est inédit le système à trois défenseurs de Favre. De toute façon, Favre, ça fait un petit moment qu'il est lourdé, et ça fait heureusement d'ailleurs qu'il y a encore Marcel Schmetzer pour tenir le vestiaire et pour faire le lien entre les joueurs et Favre. Mais s'il est passé à trois défenseurs centraux, c'est parce qu'Akanji, qui a fait une superbe saison l'année dernière, est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sûr cette saison, et que Zagadou fait des matchs plutôt pas mal, mais il a souvent des absences en termes de concentration et de placement. Alors comme Hummels n'est pas encore revenu à son niveau Bayern, il se retrouve avec deux défenseurs qui sont un peu bancales, et puis un type qui est censé tenir tout le monde, qui tient personne. Donc au final, en mettant les trois, ça permet un petit peu de combler les brèches. Et en fait, on n'a pas encore retrouvé par contre le Hakimi arrière-gauche qui avait très très bien tenu le rôle la saison dernière, et on se retrouve avec un Guerrero qui défend comme une patate.
Pour toi Bruno, quel serait le meilleur tirage de Dortmund?
Quel est le meilleur tirage pour une équipe qui a une défense qui marche pas très bien? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur tirage, hein, on verra, il faudra faire avec. C'est juste qu'aujourd'hui, Dortmund tient complètement sur sa faculté à se projeter très vite et à être dangereux très rapidement en attaque. Aujourd'hui, Dortmund ne gagnera pas un match 1-0, il le gagnera plutôt 4-3 ou 5-2.
D'ailleurs, Gilbert, je pense que c'est quand même une tendance, hein, parce qu'on va parler de l'Ajax, mais c'est exactement la même chose. Ils savent bien attaquer, mais ils ont un niveau de défense, mais franchement, niveau National 3 et encore, des fois. Et donc, je trouve qu'il y a de plus en plus d'équipes qui ont ce problème-là quand même, en tout cas au plus haut niveau. Je pense que le Barça, ça fait quelques années également. À part la Juve, mais qui a toujours historiquement eu cette...
Le niveau des défenseurs, globalement, a baissé. Parce que déjà, tu as des latéraux qui défendent quasiment plus.
Donc, est-ce que c'est pas le niveau des attaquants qui augmente et on met plus l'accent sur les offensives?
Je pense vraiment...
Je pense vraiment que c'est le niveau des défenseurs. Les deux centraux...
Moi, je trouve, les gars, que ça va de plus en plus vite. Et dans le recrutement, et notamment devant, et dans le recrutement...
Le jeu
derrière, on n'a pas mis juste.
Le jeu est plus porté vers l'attaque.
Exactement, exactement. Et derrière, on ne met pas en priorité le recrutement sur des joueurs rapides. Alors que devant, tu mets le recrutement sur des joueurs rapides.
Je ne sais pas s'il y en a énormément.
Tu mets des priorités, tu regardes les standards.
Ce sont des grands, des mecs qui sont grands, qui doivent rentrer dans un standard.
Mais la vitesse n'entre pas en ligne de compte.
Tu cites qui comme top 5 des défenseurs?
Ouais, Paul, on arrive.
Aujourd'hui, c'est je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus.
Oui, parce que. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le constat. C'est vrai que les.
Deux, trois noms qui viennent. Bah
déjà,
ça,
les après, Italiens, on en voit beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était souvent les Italiens qui étaient dans le top 10.
Beaucoup perdu.
Tu vois, eux, c'était vraiment cette culture. cette culture de, du défenseur, mais il y a quand même eu des Espagnols aussi, avec des Carles Puyol, il y a quand même eu des sacrés défenseurs. Et aujourd'hui, toutes les sélections, toutes les équipes de très haut niveau, pourquoi Liverpool ça tient? Parce que c'est pas pour dire, mais ils ont un monstrueux Van Dijk derrière. Ouais. Le Real avait un monstrueux Sergio Ramos. Et un joueur aujourd'hui, il faut qu'il te tienne une défense quasiment à lui tout seul, même si, bon, bien sûr, il y avait quand même un Raphaël Varane qui a un très bon niveau à côté de lui. Mais voilà, je pense que ce serait quand même à approfondir. Dans la formation, ça commence à être très compliqué de trouver des défenseurs de haut niveau. Bon, en même temps, ils gagnent jamais le Ballon d'Or. Donc, quoi ça sert d'être.
Bruno, merci beaucoup.
Ben, je vous en prie. Si je peux me permettre un petit message personnel, puisque Daniel est là, sur les réseaux sociaux, arrêtez d'aller faire chier Daniel. N'insultez plus Daniel. Vous voulez parler foot, venez sur le Discord JD Team. Mais lâchez Daniel, quoi. On peut plus regarder son Twitter sans voir un torrent de mecs qui se défoulent, alors que juste on parle foot, quoi. Faut se calmer. On se détend. C'est du foot. C'est
ouais, il aime ça,
c'est
Daniel.
C'est gentil, mais t'inquiète pas, ça ne représente qu'une minorité d'abrutis, tu sais, au final. Hein.
Salut Bruno. Bonjour, Gilbert. Polo, oui, un dernier mot pour conclure.
Oui, par rapport à, oui, pour conclure ce qu'a dit Gilbert, ce qu'a dit Bruno, pardon, je suis complètement en désaccord avec ce qu'il a dit. Je voudrais juste déconstruire un peu ce qu'il dit. Le fait que Lucien Favre soit lourdé, pour employer le mot de Bruno, ce n'est pas tout à fait exact, surtout lorsqu'on voit 6 mois en arrière, avant qu'il perde le titre. Donc il faut relativiser. Il parle de Marcel Schweitzer, qui aujourd'hui n'est plus du tout titulaire aussi parce qu'il est blessé. Il soude tellement le vestiaire qu'on l'a dégagé du rôle de capitaine. Donc ce n'est pas tout à fait exact. Il parle de Zagadou. Zagadou n'est plus titulaire depuis plus de 6 mois et revient ces 2-3 derniers matchs. Et quant à Akanji, qui était extraordinaire l'année dernière, c'est faux. Il a eu une belle période, mais c'est lui surtout qui coûte des buts qui permettent au Bayern Munich de revenir. Donc il faut relativiser. Et Guerrero, je ne suis pas du tout d'accord. Il fait une excellente saison. L'année dernière aussi, il est presque joker remplaçant. C'est plus Schultz qui n'est pas bon en ce moment.
En fin de compte, il a dit que des conneries.
Non, je suis pas d'accord.
Polo Guerrero avec le Portugal, franchement, il est plus côté patate de notre auditeur que côté exceptionnel.
Hein. D'accord. Ah, mais je m'occupe pas du Portugal. Enfin. Mais je trouve beaucoup.
Ça reste quand même le même joueur.
Merci, il fait trop chaud là-bas. Il fait trop chaud. C'est comme les Pays-Bas, je m'en occupe pas, moi.
Salut, Pays-Bas 3-0, c'est pas pareil. Éventuellement, il peut s'intéresser aux Pays-Bas, une dépendance.
À l'Autriche.
Polo a une certaine affection pour la Suisse alémanique. Faut le dire.
Mais pour les Pays-Bas, Polo, t'en es où de ton mépris quand tu vois qu'ils n'ont pas mis une équipe en huitième, là?
C'est l'historique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup de flammes dans ce pays. C'est les oranges, c'est la brigade de l'émotion, quoi. La brigade de l'émotion, les années 70, c'est formidable, on est 60 ans après, c'est toujours pareil. Mais tu sais, en Bundesliga, un cimetière de Hollandais, il y a que ça, quoi. Donc,
on va te quitter là-dessus, magnifique, Polo.
Mais j'aime beaucoup Kevin, moi j'aime beaucoup Kevin.
Il suffit de le lancer, c'est toujours un régal.
Dans quelques instants, justement, on va parler de l'Italie, des Pays-Bas et du Portugal. Dans notre bilan Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, un petit point sur Wolfsburg, Saint-Etienne, Timothée.
63e minute de jeu, toujours 1-0. Xaver Schlager, le chouchou de Paulo Breitner, va sortir dans quelques secondes. Alors que côté stéphanois, on a fait sortir Romain Mouma pour faire entrer Ben Kedim. 1-0 pour Wolfsburg face à Saint-Etienne. Et ça ne change rien au classement. Gent et Wolfsburg sont qualifiés en position 1 et 2.
À tout de suite dans l'after. Non, il faut qu'on fasse la pause, Daniel. Et ensuite, on revient.
Alors...
Bah, c'est comme ça, c'est la règle. À tout de suite dans l'after.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our Insights Hub to help you navigate the year ahead. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness.